24 janvier. Conditions et magasins participants sur bureau-valet.fr.
Europe 1, il est 15h. C'est l'heure du flash. Avec vous, Émilie Dez. Bonjour, Émilie.
Bonjour, Romain. Bonjour à tous. Trois jours de deuil national ont été décrétés en Espagne après l'accident de train qui a fait au moins 39 morts dans le sud du pays. Nous allons trouver la cause de cette tragédie, promet le premier ministre espagnol qui s'est rendu sur place. Le ministre des Transports parle d'un accident extrêmement étrange. La collision entre les deux trains s'est produite dans une ligne droite sur un tronçon rénové. La dernière révision du TGV qui a déraillé avait été effectuée jeudi dernier. Le trafic ferroviaire est interrompu toute la journée dans le sud de l'Espagne. Emmanuel Macron a réuni à la mi-journée un conseil de défense et de sécurité sur la situation internationale et notamment sur le Groenland. Les Européens préparent des contre-mesures après le chantage de Donald Trump. Ils menacent d'imposer des droits de douane aux pays européens qui s'opposent à une annexion américaine du Groenland. Les dirigeants européens se réuniront jeudi soir en sommet extraordinaire. La Commission européenne prône le dialogue plutôt que l'escalade. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne, prévient le Premier ministre britannique. Sébastien Lecornu va-t-il recourir au 49-3 ou aux ordonnances pour faire adopter le budget sans vote? La décision sera actée cet après-midi en Conseil des ministres. Le Premier ministre prendra ensuite la parole. Le chef des députés socialistes Boris Vallaud penche pour le 49-3, étant donné que son parti a annoncé qu'il ne devrait pas censurer le gouvernement. Le 49-3 qui pourrait être activé dès demain à l'Assemblée sur le volet recettes, puis une deuxième fois quelques jours plus tard sur le volet dépenses. Le Louvre est de nouveau fermé aujourd'hui. C'est la troisième fois depuis le début de la mobilisation des agents du musée qui réclament de meilleures conditions de travail. Une nouvelle réunion est prévue au ministère de la Culture jeudi sur la question des salaires. 5 départements du sud de la France sont en vigilance orange crue et inondation. 2 quartiers de la ville de Narbonne dans l'Aude ont été évacués. Les écoles du département sont fermées et les transports scolaires suspendus toute la journée. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les inscriptions sur Parcoursup, la phase des vœux. Les élèves de terminale et les étudiants en réorientation ont jusqu'au 12 mars pour choisir 10 formations. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour finaliser leur dossier. L'an dernier, près de 92% des lycéens qui ont déposé un dossier ont reçu au moins une proposition. Et puis un mot de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a remporté la finale face au Maroc dans un chaos inédit. Des bagarres ont éclaté en tribune. Certains joueurs sénégalais ont quitté le terrain pendant plusieurs minutes pour contester un pénalty. Le président de la FIFA condamne des scènes inacceptables à Paris et en région parisienne où la finale était retransmise. Au moins 11 policiers ont été blessés. 25 supporters ont été interpellés selon les informations d'Europe 1.
Europe 1.
Il est 15h et presque 3 minutes sur Europe 1. Et si on en parlait, c'est maintenant.
Merci beaucoup, Émilie Dez. On vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Marie-Estelle Dupont.
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle.
Bonjour Romain.
Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour sur Europe 1 entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1 et sur le site europe1.fr. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Nos standardistes Amandine et Romane sont là pour prendre tous vos appels. 01 80 20 39 21. Aujourd'hui, on va parler du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Dit projet de loi fin de vie. Il arrive au Sénat demain. Ce n'est pas un xème texte de loi sur la santé en France dont il est question, mais d'un vrai basculement sociétal. Et on a une heure pour bien comprendre les enjeux de ce texte, Marie-Estelle Dupont.
Oui, quand j'observe ce qui se passe en France, je me dis qu'Orwell était un garçon optimiste. La mainmise de l'État sur notre corps, notre pensée, nos déplacements, les QR codes, la suppression des rites funéraires pendant la pandémie, rappelez-vous, la réduction de la vie, de la mort et de la santé à des données statistiques auront entériné la déshumanisation en marche de notre société si prompte à se vanter d'être éclairée et inclusive. Alors le sujet du jour, chers auditeurs d'Europe 1, ce n'est pas le droit individuel de se suicider. C'est ce qu'une société dit lorsqu'elle revient sur l'interdit de tuer, qui n'est pas religieux, je le rappelle, mais civilisationnel. Je veux, dans la précipitation actuelle, à inscrire dans le droit français l'injection létale pour les malades, mettre une virgule, des points de suspension, faire un pas de côté, pour penser le bouleversement anthropologique d'une société qui inscrit dans sa loi, avec une insoutenable légèreté, je trouve, la possibilité de tuer sans que les proches aient leur mot à dire. Le discours progressiste est un discours sans ponctuation. Il enchaîne les infinitifs comme autant de passages à l'acte pour accélérer dans l'aide à mourir. Quand on se sent légitime, on ne se précipite pas pourtant. Étrange empressement de certains dans la modernité à liquider au plus vite tous ceux qui risqueraient d'être à leur corps défendant trop longtemps dépendants. Pas un mot sur le développement possible grâce à la technique moderne des soins palliatifs. Pas un mot des liens humains, dont on sait pourtant qu'ils sont un puissant antalgique tant les hormones d'attachement apaisent la douleur physique. C'est ce qui explique qu'un bébé qui hurle se calme quasiment instantanément dans les bras de sa mère, ou qu'un de mes patients à l'hôpital, dont les tremblements ne cessaient même avec des médicaments, s'apaisa d'un coup lorsque je posais ma main sur son bras avec sa permission. Magie du lien et de la présence qui dit « je suis à vos côtés ». Mais ça coûterait trop cher. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la façon dont on fabrique le consentement et le désir de mourir dans un monde qui bientôt fera de la relation humaine dans le soin le privilège des plus aisés. Car on propose un droit qui deviendra une injonction, puis un devoir. On dira aux dépressifs « suicidez-vous, n'écoutez pas ceux qui vous disent que la vie vaut la peine d'être vécue, ils vous manipulent, c'est votre droit ». Une possibilité est parfois, chers auditeurs d'Europe 1, ce qui précède une incitation. Je suis inquiète, car bientôt le médecin et l'État auront droit de vie et de mort sur les innocents, et je souhaite en parler aujourd'hui avec Laurent Frémont. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
Je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que vous êtes déjà venus à propos de la question de la suppression des rites funéraires pendant le Covid, puisque pour resituer sur le plan biographique votre histoire, vous avez perdu votre papa pendant le Covid et vous avez reçu un papier qui écrivait « mise en bière immédiate » et qui ne vous a pas permis, en raison des décisions administratives, d'honorer la dépouille de votre papa. Donc vous en avez fait un combat et aujourd'hui vous venez nous parler de cette loi qui sera présentée demain au Sénat. Et sur laquelle on va avoir une heure pour revenir.
Marie-Estelle Dupont, votre ton est grave hein, pendant votre éditorial. Je suis inquiète, c'est ce que vous dites. La loi qui va être soumise aux sénateurs et puis à tous les parlementaires est dangereuse selon vous, Marie-Estelle Dupont. Hein.
Alors, c'est-à-dire qu'elle fait de l'acte de tuer un soin médical. Je crois qu'à la limite, je pourrais presque arrêter mon argumentation ici. C'est-à-dire que là, il y a le glissement. On parlait récemment des manipulations idéologiques de la langue. Je crois qu'en termes de glissement sémantique, on peut pas en faire un plus énorme. Le texte qui va être débattu demain, il rend l'injection létale légale quand le pronostic vital est engagé à court terme. Alors, on sait qu'il y a quand même la loi Leonetti qui permet une sédation profonde et prolongée pour les malades très douloureux et incurables. On a des soignants palliatifs qui sont très mobilisés, qui font un travail extraordinaire en France avec un dévouement immense et qui sont pressurisés pour se taire, pressurisés pour travailler avec des moyens qui diminuent sans cesse. Et je pense que parler de consentement dans cette demande, si en face on n'a pas une véritable offre de soins palliatifs, c'est un faux consentement, puisque évidemment, quand les soins palliatifs sont délaissés, la souffrance est telle que la mort apparaît comme la seule issue raisonnable et désirable. Donc je crois qu'il faut vraiment se pencher sur les détails de ce texte parce que on est en train de modifier les grands principes civilisationnels, les grands principes du serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, et puis la liberté des médecins, c'est-à-dire que de proche en proche, on va bien faire comprendre aux médecins que, même si pour le moment il n'y a pas de délit d'entrave, il n'est pas possible pour le moment, hein, pour le moment il n'y a pas de délit d'entrave, mais on sent bien que de proche en proche, ça risque de se réduire et que cette éthique médicale est en train d'être un peu prise en otage par les décisions administratives, les décisions de l'État. Donc je crois que la porte va être ouverte à beaucoup de dérives et qu'il peut y avoir un arrachement du consentement qui va se fabriquer auprès de personnes très très vulnérables. Et puis, je sais pas, je trouve que sur le plan symbolique et sur le plan anthropologique, le fait d'inscrire dans le droit la mort comme un soin et d'inscrire la mort dans le champ médical, c'est quand même une inversion de valeur qui est majeure, qui est immense. Et je pense que Laurent Frémont, qui a rédigé une tribune pour le Figaro, notamment avec Emmanuel Hirsch, hein, Emmanuel Hirsch a écrit « Euthanasie, le dernier acte », qui est un très, très beau livre, très grave aussi. J'avais envie de l'entendre pour qu'il nous dise ce qui le préoccupe en fait. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce texte et dans cette séquence législative dont finalement on parle assez peu ces jours-ci dans les médias, Laurent Frémont ?
Ce qui est sûr, c'est que, comme vous le disiez, on n'est pas sur une question nouvelle. Ça fait 25 siècles qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est le rôle du médecin de donner la mort? Et ça fait 25 siècles que, collectivement, on s'est donné comme réponse que la société doit respecter un interdit de tuer qui est, comme vous disiez, symbolique, hein, qui est quasi
c'est
sacré.
Le tabou, mais pas de... C'est le tabou du meurtre et le tabou de l'inceste qui est à la base de toute civilisation.
Et c'est ça qui réfrène nos pulsions de mort, nos pulsions collectives. Et donc, on avait répondu à cette question et je ne me suis pas penché sur l'histoire de ce sujet. Certains reviennent régulièrement sur cet enjeu. Est-ce que le médecin doit donner la mort? Et jusque-là, on s'était donné plutôt des réponses prudentes. Mais effectivement, là, on est dans la transgression. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que c'est une priorité politique. Pour le président de la République, lors de ses vœux, il l'a mise au même rang que donc, trois sujets qui feraient de 2026 une année utile. Donc, vous voyez bien tout de suite la logique assez mortifère. Pour le président de la République, on sera sur une année utile si on a réussi à légaliser la mort provoquée. Et avec une forte pression sur les parlementaires pour avancer vite, et comme vous disiez, un empressement que je trouve assez inquiétant, parce que on pourrait penser que le but d'une société politique, d'une démocratie, c'est de s'empresser de mettre des soignants à l'hôpital, de mettre des accompagnants dans les établissements pour les personnes âgées, d'accompagner le handicap, etc., les souffrances psychiques. Mais là, c'est vraiment une dérive mortifère qui consiste à privilégier la mort comme réponse collective apportée à la souffrance, et avec beaucoup de légèreté, je pense, aussi beaucoup de manipulation hein, médiatique et politique. Mais je pense qu'on est là sur un des textes les plus graves de ces dernières décennies, et que finalement tout le monde regarde ailleurs, qu'on est dans une forme de silence généralisé, et que les grandes consciences sont assez rares pour s'élever face à ce projet.
Pourquoi cette précipitation, oui, selon vous?
Alors, il y a tout simplement un lobby qui est à l'œuvre depuis des années, mm-hmm, et qui dispose de très forts relais. Et aussi, du point de vue du président de la République, je pense que c'est une manière de laisser un bilan, de montrer que ces deux quinquennats n'auront pas servi à rien. Mais sachant que, comme vous disiez encore, c'est une loi assez facile à faire passer, qui ne coûtera pas rien, et même qui pourra faire des économies à la sécurité sociale, etc.
Oui, je crois que cette précipitation est tout à fait la marque de l'idéologie progressiste qui voit un progrès dans tout ce qui est une manière de contrôler et de maîtriser un peu plus les conditions de la vie, les lois de la nature, la naissance, la mort. Donc on parle d'aide à mourir, donc tuer devient une aide. On parle de GPA éthique, donc louer un utérus est un acte altruiste. On voit bien les manipulations sémantiques. Et c'est le reflet de cette époque où Narcisse est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de sacré, il n'y a plus de transcendance. Je suis tout-puissant, je suis capable de m'auto-déterminer la date de ma naissance, mon sexe, la date de ma mort, etc., etc. Et c'est une illusion narcissique qu'on va faire passer auprès de beaucoup de gens comme un progrès, et qui va être en réalité une emprise terrible sur les plus vulnérables, parce que il faut bien comprendre que quand on perd la santé, quand on n'est plus dans la force de l'âge, dans une époque qui valorise la jeunesse et la performance, on se sent honteux, on se sent coupable d'être une charge et de ne plus être une fierté peut-être pour sa famille. Donc à partir du moment où on est dans une anthropologie très matérialiste, où la dignité humaine est conditionnée à la productivité, il est évident que les bébés et les vieillards sont peu désirables. Et donc, les plus vulnérables vont être gentiment poussés sur le bas-côté, et on va leur dire, écoute, maintenant, il faudrait que tu laisses la place quand même, parce que tu nous renvoies aussi l'image d'une décrépitude et d'une dégradation qui n'est pas très agréable à regarder pour notre narcissisme flamboyant. Donc, il y a la question du coût, évidemment, puisqu'une société, on y reviendra, qui ne fait pas de bébés, c'est une société qui a beaucoup de personnes âgées à porter économiquement. Mais on voit bien que la logique progressiste, elle est là. On estampille du mot de progrès tout ce qui, finalement, selon moi, est une régression vers des pratiques barbares.
C'est intéressant, là, ce que vous dites, parce que finalement, ce n'est pas une nouveauté. Et ça se pratiquait beaucoup dans les années 70-80 avec les progrès de la médecine. Il y a beaucoup de personnes qui vivaient plus longtemps. ce qu'on appelait les cocktails lytiques, c'est-à-dire qu'on empoisonnait les gens discrètement dans les services des hôpitaux. Et c'est justement face à ces pratiques que les soins palliatifs sont nés, qu'il y a beaucoup de progrès thérapeutiques qui ont pu faire leur apparition. Et donc, c'est finalement une logique assez rétrograde de dire que face à la souffrance, on va éliminer le souffrant plutôt que d'éliminer la douleur ou la souffrance psychique.
Plutôt que de faire un travail psychique collectif de maturité par rapport à l'angoisse de mort aussi, et par rapport à l'angoisse de la finitude, c'est-à-dire que dans les villes, aujourd'hui, on ne voit plus tellement de cortèges, on ne voit plus la mort, on ne voit plus la maladie, elle est cachée. Et je crois qu'il y a un véritable travail de maturité psychique. On a beaucoup avancé dans le progrès technologique, mais on n'a pas beaucoup de maturité sur le plan collectif par rapport à la vulnérabilité et à la finitude. Et vous parliez des soignants, mais en fait, quiconque embrasse une carrière de soignant avec une vocation, que ce soit un infirmier, un psychologue, un médecin, il n'a jamais à cœur la mort. Il embrasse ce métier, cette profession, parce qu'il pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc là, on va demander aux soignants d'entériner le fait que, dans certains cas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Attention, je précise aux auditeurs d'Europe 1 que je ne suis pas en train de débattre du désir individuel de se suicider. Je pense notamment à des amis de ma famille où le couple s'est suicidé parce que monsieur avait la maladie de Charcot et ils ont choisi d'en finir ensemble. C'était leur choix individuel. Nul ne peut juger d'un tel niveau de souffrance. Mais là, on voit bien comment les dirigeants sont en train de faire passer pour de l'altruisme et de l'humanisme quelque chose qui est profondément obscurantiste dans cette vision de la vie.
Marie-Estelle Dupont, qu'est-ce qui pousse un individu à avoir envie de mourir ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, c'est très rarement quand on travaille avec des gens qui ont des idées suicidaires, quand on travaille avec des gens qui ont des maladies chroniques, graves, incurables, douloureuses. Ce qui pousse quelqu'un à avoir envie de mourir, c'est très rarement le désir de mort. C'est en général le désir d'arrêter de souffrir, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que même un jeune adulte qui se suicide parce qu'il a une très très grande souffrance psychique, il vous aura exprimé, en général, si vous avez bien écouté son discours, ou alors s'il fait une tentative de suicide et puis qu'on le récupère après, qu'il ne désirait pas mourir, il désirait arrêter de souffrir, il désirait trouver une issue, une sortie à une situation qui était une impasse. Donc, quand vous cumulez une immense douleur physique, un pronostic vital, et puis un entourage qui n'est pas là, c'est-à-dire une absence de lien, et on sait à quel point l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone d'attachement, peut maintenir quelqu'un en vie. On sait que les gens meurent au moment souvent où ils sont seuls dans leur chambre, tant qu'il y a des proches qui les touchent, qui leur parlent, ça fait monter les hormones d'attachement, et l'ocytocine fait que le dernier souffle n'arrive pas. Donc quand, en plus, les liens s'absentent, que peut-être on fait sentir à mamie que ce serait bien qu'on la libère du poids de sa vieille carcasse parce qu'il serait temps de toucher l'héritage, évidemment que la personne a un sentiment d'abandon. Donc quand vous cumulez la peine morale par absence de lien, et donc le sentiment d'abandon, la blessure de rejet et la douleur physique, oui, vous fabriquez une envie de mourir. Mais ça n'est pas une appétence pour la mort. C'est un désir d'arrêter de souffrir. Et c'est vraiment important, c'est ça le levier en fait.
Et on voit bien l'évolution de la logique là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un dans votre entourage fait une tentative de suicide, eh bien si vous ne lui prêtez pas d'assistance, c'est non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que c'est du pénal. Et aujourd'hui, toute personne qui fait une tentative de suicide est réanimée par les services de secours. C'est plus de 100 000 hospitalisations par an. Et aujourd'hui, finalement, le message qu'on nous proposerait serait strictement l'inverse, c'est-à-dire il y a une demande de mort, donc on y répond positivement, dans des délais très brefs, avec très peu de garanties, et en faisant passer ça pour un soin, parce que il faut bien, je pense, insister là-dessus, la France serait le premier pays au monde à intégrer le geste létal dans son code de la santé publique. Les quelques pays au monde, et ils ne sont pas très nombreux, qui ont légalisé l'euthanasie, l'ont fait par leur code pénal ou autre, mais la France, en même temps caractéristique, serait finalement une particularité mondiale en intégrant l'injection létale au même titre que d'autres soins.
Oui, et d'ailleurs, ça me fait venir une question. Dans le texte très précis que peut-être les auditeurs d'Europe 1 n'ont pas lu, il est précisé, et vous me reprenez si je me trompe, Laurent Frémont, que la proposition de loi impose aux établissements de santé de permettre et d'organiser l'intervention des effecteurs de l'assistance médicale à mourir. Si on prend le cas de la Suisse, où l'euthanasie est possible, vous allez vous faire euthanasier dans des endroits qui sont réservés, dédiés à ça. Sur le plan symbolique, Ça veut donc dire que même un établissement, enfin symbolique et pas que symbolique, un établissement dont le directeur, si par exemple demain j'ouvre une maison de retraite et je dis dans ma maison de retraite, on ne se suicide pas. Donc ça veut dire que si un résident demande la mort, ça ne peut pas avoir lieu dans ma maison de retraite. L'État français pourrait, avec cette loi, dire « Ah non, mais vous ne pouvez pas vous y opposer, on va venir injecter chez vous ». Et moi je dis « Mais non, parce qu'il va y avoir un effet de contamination psychologique, les autres résidents vont peut-être demander la même chose, je veux éviter cela ». Et on va me dire « Non madame, vous ne pouvez pas avec cette loi ».
C'est explicitement écrit dans le texte, le directeur d'établissement est tenu de permettre l'intervention donc d'effecteurs extérieurs qui vont venir euthanasier la personne dans vos murs. Et donc il faut bien imaginer le traumatisme que c'est, notamment pour les EHPAD associatifs, pour toutes ces structures, les maisons de soins palliatifs qui accompagnent des personnes avec une éthique, avec une philosophie très particulière. La violence de ce message qui est de dire on va à l'encontre de votre projet, à l'encontre de vos valeurs, on va vous imposer dans vos murs un geste létal avec effectivement un impact sur les chambres voisines, sur les équipes, sur l'organisation. Oui. Enfin, c'est là, pour le coup, un degré de coercition. Vous disiez que le délit d'entrave n'était pas prévu. En fait, il avait été prévu par l'Assemblée. Il a été levé par la Commission des Affaires Sociales du Sénat. Mais on a toujours cette coercition très forte contre les établissements de santé, établissements médico-sociaux, donc établissements pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées, qui seront tenus d'autoriser ce geste, même s'il va à l'encontre de leur pratique et de leur éthique d'établissement.
Accessoirement, une injection létale, ce n'est pas un spectacle. Hein. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de permettre de le faire partout.
Et puis, il faut mesurer ce que c'est. Ça revient, rappelons-le, parce qu'il faut, je pense qu'il faut être très concret, malheureusement, ça revient à injecter un poison à quelqu'un pour que son cœur s'arrête rapidement. Donc tout sauf un soin.
Sur les conditions qu'il faut respecter pour accéder à ce qui est appelé dans le texte l'assistance médicale à mourir. Il faut être âgé d'au moins 18 ans, se trouver dans une situation médicale définie par la loi. Alors là, ouvrez les guillemets. On ouvre les guillemets. Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement, fermons les guillemets. Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Quelle est la réalité que revêt cette formulation et que veut dire à court terme?
Alors,
Laurent Frémont.
Là, on est sur clairement une version plus restrictive qu'à l'Assemblée, parce qu'à l'Assemblée, c'était très large. Mais donc là, c'est ce que la Commission des Affaires Sociales a choisi comme terme.
Oui.
Et donc, on est sur les situations qui étaient déjà couvertes par la loi, ce qu'on appelle la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui prévoit qu'une personne dont le pronostic vital est engagé à court terme peut être endormie, finalement, ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Donc, c'est une forme d'anesthésie
court
générale.
Terme, ça veut dire quoi?
Ça veut dire un départ dans quelques heures ou quelques jours. Donc là, c'est vraiment quand la mort est proche, mais c'est évidemment une bande temporelle qui sera supprimée par l'Assemblée nationale, qui va revenir à son texte d'origine. Mais en tout cas, c'est une situation qui est déjà couverte par la loi, parce que on peut aujourd'hui endormir une personne qui va mourir si ces conditions sont réunies. Mais c'est juste que là, on change de geste. Là, on parle d'endormir, on parle d'apaiser. Alors qu'avec ce texte, c'est l'injection létale, donc c'est empoisonner tout simplement une personne qui est mourante.
Ouais. Marie-Estelle Dupont, on peut dire que c'est un virage anthropologique, et pourquoi?
Ah bah bien sûr, complètement. Oui, c'est-à-dire que la loi Leonetti par la sédation longue et prolongée, notamment d'enfants, la mort est la conséquence de cette recherche de soulagement. Là, comme dit très bien Laurent, la mort est l'objectif immédiat. Donc, on voit bien que le virage anthropologique dont je parle déjà depuis 5 ans, 6 ans, depuis la redéfinition de la santé pendant le Covid, qu'on réduit à finalement une statistique et l'éviction d'une maladie dans le cadre du Covid, et ensuite la levée des cérémonies funéraires, on voit bien comment l'administration devient ce qui dirige l'éthique médicale. Donc il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire que les procédures qui doivent être au service d'une recherche de justice dans la santé vont gouverner l'action du médecin. Donc en fait, il n'y a plus finalement de liberté pour le médecin. Quand l'administration coche, par exemple, mise en pierre immédiate, ça veut dire que quoi qu'elle fasse, une maman ne peut pas embrasser son enfant décédé. Enfin, je ne sais pas si on se représente la déshumanisation qu'on est en train de mettre en marche au nom du progrès, au nom de la modernité, au nom du bien. Alors, je crois que c'est un progressisme qui est extrêmement cynique et quelque chose qui m'interpelle, dont on parlera après la pause, c'est que les proches, et notamment la personne de confiance, vous savez qu'à la moindre anesthésie générale, vous désignez une personne de confiance, ne pourront plus venir nuancer la demande de la personne. Ça veut dire que le mari qui connaît très bien sa femme, qui sait qu'elle est en train de parler dans un épisode, dans une séquence qui va être dépassée dans quelques temps, n'aura pas son mot à dire. Pourquoi ? Pourquoi on prend comme ça en otage le malade ? Je veux avoir la réponse de Laurent Frémont après la pause.
Ce sera dans quelques instants. Vous avez entendu la petite musique. On parle aujourd'hui du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. 10 projets de loi fin de vie qui revient au Sénat demain. 01 80 20 39 21 si vous voulez témoigner. L'appel est non surtaxé. Petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres.
15h, 16h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Laurent Tessier. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Dire les choses telles qu'elles sont.
Laurent Tessier, une signature Europe 1, du lundi au vendredi à 7h25. Europe
1. La radio libre.
T'es où ?
Je me suis perdu. Trop d'offres ?
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199 euros par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Vos pommes gala françaises, elles sont vraiment...
délicieuses, pas chères?
Oui, mais surtout vraiment...
ah, vraiment craquantes. Et du 20 au 24 janvier, les pommes gala françaises de verger éco-responsables sont à 1,29€ le kilo. Et il y a 10% de tickets Leclerc en plus sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 170-200 grammes, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise. Vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté. Mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous. Si on sait assurer votre auto ou votre domicile, nos conseillers vous proposent aussi des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui. En plus, en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie.
Groupama.
Groupama. Toujours là pour moi.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr.
On parle aujourd'hui d'un texte qui est un vrai basculement de société, un vrai basculement civilisationnel. C'est le projet de loi dit fin de vie qui en réalité vise à autoriser en France l'euthanasie et le suicide assisté. Il retourne au Sénat demain, on en parle avec vous Marie-Estelle Dupont, et avec Laurent Frémont, maître de conférence à Sciences Po et cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. On en parle également avec vous, 01 80 20 39 21. A tout de suite sur Europe 1.
Dans la vie, vous pouvez choisir d'avoir des enfants, leur faire faire leurs premiers pas, les accompagner jour après jour. Tout ça pour qu'ils finissent par se jeter en boule en hurlant au milieu du supermarché.
Ou bien sinon, vous pouvez choisir une Volkswagen qui fera exactement ce que vous lui demandez.
Volkswagen, enfin une décision facile à prendre.
En ce moment, le T-Cross est à partir de 179 euros par mois.
T-Cross 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 179 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
À tous ceux qui se font du Nutella aux tartines le matin. À ceux qui se font du Nutella mais sans tartines et pas que le matin. Et à ceux qui attendent la Chandeleur pour se faire du Nutella aux crêpes. Dès mardi chez Intermarché, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième produit acheté, sur toutes les pâtes à tartiner Nutella. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 1er février, sur le moins cher des deux, modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
Leclerc, bonjour.
Allô ? Rassurez-moi, le gel douche Ushuaïa, il est bien en promo, c'est pour une urgence ?
Oui, tout à fait, mais vous m'inquiétez, c'est quoi l'urgence ?
Vous voyez ce moment où vous êtes sous la douche et vous réalisez qu'il n'y a plus de gel douche ?
Aïe, oui, on a tous connu ça.
Moi, c'est maintenant.
Alors séchez-vous vite et venez nous voir. Du 20 au 31 janvier pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un gel douche Ushuaïa, le deuxième est à moins 80%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein. Elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Et vous, vous n'allez pas encore vos yeux.
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltronet Sofa, ce sont les super soldes en or avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltronet Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltronet Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Europe 1, le journal permanent.
15h30, on est ensemble sur Europe 1, le journal permanent, c'est avec vous, Émilie Dez.
Le Premier ministre espagnol promet une transparence absolue et la vérité sur les causes de la collision qui a fait au moins 39 morts dans le sud de l'Espagne. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. Le ministre des Transports évoque un accident extrêmement étrange. La dernière révision du TGV qui a déraillé avait été effectuée jeudi dernier. La collision a eu lieu dans une ligne droite sur un tronçon rénové. Les surtaxes douanières brandies par Donald Trump nuiront autant aux Européens qu'aux Américains, prévient le chancelier allemand Friedrich Merz, qui espère rencontrer le président américain mercredi à Davos pour éviter toute escalade. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane aux pays européens qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland. Les Européens qui préparent des contre-mesures. Emmanuel Macron a réuni à la mi-journée un conseil de défense et de sécurité sur la situation internationale et notamment sur le Groenland. À l'issue du Conseil des ministres prévu tout à l'heure à 16h, le Premier ministre Sébastien Lecornu prendra la parole pour annoncer s'il utilise le 49.3 ou les ordonnances pour faire passer le budget. On se dirige vers le 49.3, estime le chef des députés socialistes, étant donné que son parti a annoncé qu'il ne devrait pas censurer le gouvernement. Le 49.3 pourrait être activé dès demain à l'Assemblée. Invité à rejoindre le Conseil de paix de Donald Trump, la France rappelle son attachement à la charte des Nations Unies, la France qui détient un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de paix a été initialement conçu pour superviser la reconstruction de Gaza. Donald Trump a fixé à 1 milliard de dollars le prix des sièges permanents. Alerte aux crues et aux fortes pluies dans le sud de la France, autour de la Méditerranée et en Corse. Dans l'Aude, les écoles sont fermées et les transports scolaires suspendus toute la journée. 2 quartiers de la ville de Narbonne ont été évacués. Et puis au moins 11 policiers ont été blessés et 25 supporters interpellés à Paris et en région parisienne le soir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une information Europe 1. La finale qui a vu le Sénégal battre le Maroc a été émaillée d'incidents. Des bagarres ont éclaté en tribune. Certains joueurs sénégalais ont quitté le terrain pendant plusieurs minutes pour contester un pénalty. Le président de la FIFA condamne des scènes inacceptables.
Émilie Dez, merci beaucoup Émilie. On vous retrouve à 16h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Marie-Estelle Dupont.
15h-16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Le projet de loi fin de vie, projet de loi qui vise à autoriser l'euthanasie et le suicide assisté en France, revient au Sénat demain. On en parle avec Marie-Estelle Dupont et on est avec Laurent Frémont, cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. Vous êtes également maître de conférence à Sciences Po. On va être avec Armel dans un instant, qui a 56 ans, qui nous appelle de Lyon. Il y a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Marie-Estelle Dupont, vous vouliez revenir sur le fait qu'avec ce texte, les proches d'un patient n'auront pas leur mot à dire. Ça, c'est très important, hein.
Mais je trouve que c'est même ce qui doit mettre la puce à l'oreille de quelqu'un qui aurait de bonnes raisons de penser qu'il faut faciliter l'euthanasie, etc. Je trouve que c'est véritablement une laisser la personne vulnérable totalement sous l'emprise d'un médecin qui est tout puissant, puisqu'on a d'un côté une collégialité qui n'est que rhétorique, hein, dans le texte, puisqu'au final, c'est le médecin qui a la décision tout seul. Et de l'autre côté, on isole quelqu'un, mais quand on laisse le libre choix à quelqu'un, on n'a pas peur qu'il parle avec les autres. Donc on n'a pas peur de la vie du mari, du fils, de la fille, de l'aidant, peut-être un aidant familial qui passe énormément de temps avec sa mère atteinte d'une maladie grave et qui va dire « Non mais je sais exactement quand est-ce que maman dit qu'elle a envie de mourir, c'est exactement quand elle a pris tel traitement, 2 heures avant, elle a un petit down, et puis après ça remonte, etc. etc. » Quand vous vous occupez de quelqu'un toute la journée, vous savez que la personne, quand elle est déshydratée, elle devient confuse, mais qu'en fait elle est confuse parce qu'elle n'a pas bu assez. Enfin, on connaît son malade quand on est proche. Et donc, on a un regard à apporter qui peut aider, justement. Et donc, je trouve très pernicieux, très étrange que les proches n'aient pas leur mot à dire. Donc, j'aurais aimé entendre Laurent Frémont sur ce point.
Mais vous avez rappelé que j'étais malheureusement arrivé à ce sujet pendant la période du Covid. Pour moi, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'on isole les patients, on isole les personnes âgées. Et là, on arrive vraiment à l'aboutissement d'une logique où on est dans un face-à-face entre la personne et un médecin tout-puissant qui a finalement le pouvoir de vie et de mort, c'est le cas de le dire, parce que c'est lui qui instruit la demande, c'est lui qui l'apprécie et c'est lui qui a la décision finale. Et les proches, même l'équipe soignante en fait, l'équipe qui est au quotidien aux côtés de cette personne, n'est même pas associée à la décision. Et d'ailleurs, c'est même vrai pour tout ce qui a trait au recours. On ne peut pas contester devant la justice une décision d'assistance à mourir. Alors, c'est que la personne elle-même.
Donc les proches n'ont pas leur mot à dire, sauf en cas de tutelle ou de curatelle. Éventuellement, là, on a le droit de dire quelque chose si la personne est sous curatelle.
Tout à fait.
Les proches n'ont pas leur mot à dire. La collégialité est finalement réduite à peau de chagrin, en fait, puisqu'il y a un médecin
simple.
Tout-puissant.
Il nous parle d'une décision collégiale, mais en fait, le médecin doit juste consulter un second médecin qui potentiellement n'a même pas à examiner la personne. Donc un médecin qui peut être à distance et qui donne un oui de principe, et un autre professionnel de santé qui, là non plus, potentiellement, ne connaît pas la personne. Donc on voit très bien les abus de faiblesse, on voit bien cette pression sur les plus vulnérables, et donc on est dans cette même logique d'une personne isolée face à une médecine toute puissante, où la personne n'est pas du tout prise dans l'intégralité de ses relations et de son existence.
De son environnement, on sait bien que la médecine c'est aussi un environnement psychosocial. Donc en fait, à propos de décision collégiale, ce n'est pas une décision collégiale, c'est un avis consultatif.
C'est ça, qui n'est pas contraignant.
D'un collège de médecins, mais qui n'est pas contraignant.
Oui, et donc là on est vraiment dans une situation de toute puissance, et ça fait des décennies qu'on se bat pour rééquilibrer la relation de soins, qui est, on le sait par nature, asymétrique, et qu'on essaye vraiment d'associer les citoyens à la décision médicale, etc. Et là, c'est un retour en arrière total, où on a le médecin sachant qu'il est en situation de toute puissance et qui peut, d'un trait de plume, tout simplement envoyer quelqu'un vers la mort.
Les personnes qui souffrent de déficience intellectuelle peuvent décider d'être euthanasiées avec ce texte.
Oui, alors c'est hyper intéressant, en fait. À l'Assemblée, il y a eu pas mal d'amendements de députés qui disaient quand même une personne qui n'a pas toutes ses capacités intellectuelles ne peut pas librement choisir de mourir. Et tout a été rejeté par le gouvernement, par Olivier Falorni, qui est l'auteur de cette loi.
Donc à ce jour, oui.
Donc à ce jour, oui.
Le texte n'est pas voté, hein, mais dans le, ce
qui dans la version vote, même validée par la Commission des affaires sociales du
Sénat.
Donc
la version qui revient au Sénat demain.
Oui, donc non seulement il n'y a aucune évaluation psychologique ou psychiatrique obligatoire, mais en plus une personne qui souffre de déficience intellectuelle est tout à fait éligible à l'aide à mourir à partir du moment où elle en fait la demande.
Oui, et surtout que la décision est prise très rapidement, hein, puisqu'on le voyait, c'est à court terme. Donc,
oui,
ça veut
et puis
dire
on
que
a un délai de 48
heures. S'il n'y a pas d'évaluation, elle ne se fera pas, enfin, il n'y en aura pas du tout. Oui, oui.
C'est ça que je trouve assez effrayant, c'est qu'on a, il y a seulement deux jours entre la décision et l'effection, et ça, sachant que c'est un délai qui peut être abrogé par le médecin s'il l'estime nécessaire.
Oui.
Et en plus, on n'a même pas de contrôle a priori.
Je croyais que les deux jours avant l'injection létale étaient incompressibles.
Ah si, si, le médecin peut, s'il le juge utile, supprimer ce délai. Et surtout, encore une fois, pas de contrôle a priori, c'est-à-dire qu'on contrôle une fois que la personne est déjà morte. Donc on est sur un acte qui, par nature, est irréversible parce que, encore une fois, on empoisonne cette personne. Et on ne prévoit pas, tout simplement, de contrôle avant l'acte, ce que d'autres pays ont pu prévoir. Hein. Mais donc ça montre bien que la volonté, vraiment, c'est d'en finir le plus vite possible.
Marie-Estelle Dupont.
Oui, c'est pas du tout la même logique qu'en Suisse, hein, où au contraire, il y a énormément de garde-fous, il y a presque des désincitations, c'est pas médicalisé, il y a finalement très peu de gens qui sont éligibles à ça, etc., etc. Donc là, on sent bien que on a ouvert une porte qui ensuite, on va décaler la fenêtre d'Overton, en fait. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, non, mais il n'y a pas de délit d'entrave pour les psychologues et les psychiatres, il n'y a pas, etc., etc. Et puis, les gens vont se dire, non, mais il est pas mal ce texte parce que quand même, on n'ira pas plus loin. Et en fait, la fenêtre d'Overton, c'est, pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est modifier le cadre d'un débat en s'appuyant sur le « non mais quand même ». C'est-à-dire que de proche en proche, on va rendre acceptable des choses qui étaient inimaginables.
Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment étudié tous les textes des quelques pays qui ont légalisé. Et finalement, la France, le gouvernement a pris le pire dans chaque pays pour faire cette proposition de loi. Et avec une légèreté très très forte, et on peut penser que même si on estime, même si le gouvernement prétend aujourd'hui qu'il y a des garde-fous, que ceux-ci sautent très vite. Il faut rappeler que au Québec, ça a été légalisé il y a 8 ans maintenant, et qu'on est maintenant à 7,9% de la population qui se fait euthanasier chaque année. Donc ça va très vite. Et 27%.
Et ils sont en train de discuter de la possibilité d'euthanasie pour les mineurs, hein, sans l'accord des parents.
Oui, pour les mineurs et aussi pour les personnes, notamment qui souffrent de démence. Et donc, ça montre qu'une fois que cette digue est rompue, une fois que la ligne rouge est franchie, les mentalités peuvent évoluer très vite. Par exemple, au Canada, il y a un sondage très intéressant qui montre que pour 27% des personnes interrogées, le fait d'être SDF ou le fait d'être pauvre serait devrait être un motif suffisant pour obtenir l'euthanasie. Donc on voit bien cette forme de dystopie qui est qu'à partir du moment où on s'habitue à quelque chose, à partir du moment où on a franchi la ligne rouge, et bien finalement on ne revient jamais en arrière et tout ne fait que s'étendre malheureusement vers le pire.
Donc c'est le début de ce texte, hein. C'est ça.
C'est que le début.
C'est ce que vous nous dites. Oui, effectivement, Marie-Estelle Dupont. On va entendre Armel qui est avec nous. Bonjour Armel.
Oui, bonjour.
Vous avez 56 ans, vous nous appelez de Lyon.
Oui. D'abord, merci pour votre émission, c'est super, Marie-Estelle. Heureusement que vous étiez là pendant le Covid, sinon on serait tous jetés par la fenêtre. Donc,
merci beaucoup, voilà. Armel.
Ouais. Écoutez, je parle en connaissance de cause parce que j'ai un frère qui a la maladie de Charcot. Il a 59 ans et il a la maladie de Charcot depuis 6 ans. D'abord, ce que je voulais dire avant, c'est que parler d'euthanasie et de suicide assisté, quand on a une telle crise de la médecine et de la santé en France, qu'on nous avait promis une loi grand âge, qu'on a renoncé et qu'on nous promet depuis 10 ans des soins palliatifs, alors qu'il y a toujours un département sur deux qui n'a pas de soins palliatifs, je trouve que c'est totalement indécent. Ça, je trouve ça totalement indécent. Voilà. Et entre parenthèses, j'ai un fils qui est pompier de Paris, qui passe son temps à sauver des gens. Si un jour on l'appelle et qu'on lui dit il y a une dame au 5e étage qui va sauter par la fenêtre, on va lui dire quoi ? Écoutez, laissez-la tranquille, elle a envie de se suicider et n'allez pas la chercher. Donc ça, je trouve ça absolument honteux et dégueulasse. Donc pour en revenir juste à mon frère, qui a 59 ans, hein, donc il est jeune, il a la maladie de Charcot depuis 6 ans, il est plus chez lui, parce qu'en fait, la médecine, le gouvernement, enfin tout ce qui est mis en place n'a pas permis en fait qu'il puisse rester chez lui avec son épouse, parce que c'est beaucoup trop lourd et que ma belle-sœur ne peut plus, enfin elle peut pas le porter, etc. Et même les infirmières, elles ont plus le temps de venir parce qu'en fait les soins sont très importants. Donc ma belle-sœur aurait voulu que mon frère puisse rester et il n'a pas pu rester. Donc ça fait 2 ans qu'il est dans une maison qui est semi-médicale et puis un peu EHPAD. Mais du coup, il est vraiment le plus jeune. Je trouve ça dégueulasse qu'on discrimine les gens qui ont la maladie de Charcot parce que on dit que c'est des gens qui sont éligibles à l'aide à mourir, enfin à l'euthanasie, alors qu'en fait, moi je peux vous le dire, mon frère, il a pas du tout envie de mourir et il est pourtant très très handicapé. Je pense qu'au niveau, au niveau de la douleur, il est très très bien pris en charge et il n'a pas de douleur physique. En revanche, je pense que la douleur psychologique est très très importante. Donc comment on va faire pour dire la douleur physique, pour moi la douleur physique peut être égale à la douleur psychologique. Donc si psychologiquement il est en difficulté, alors pourquoi demanderait-il pas qu'on l'euthanasie? Et puis, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est hyper important, et c'est, alors déjà je pose la question au monsieur qui est avec vous, une personne qui voudrait être en soins palliatifs, qui n'a pas de soins palliatifs dans sa région, qu'est-ce qui va lui rester? C'est-à-dire si elle souffre mais qu'elle n'a pas de soins palliatifs, qu'est-ce qui va lui rester? On va lui proposer l'euthanasie, ça je trouve ça dégueulasse, donc ça veut dire qu'on privilégie la mort plutôt que la vie. Et puis la dernière chose, c'est que quand vous êtes entouré, je peux vous dire que mon frère, c'était un grand sportif, etc. Donc, quand vous êtes entouré, quand votre femme, alors, il a une femme, il a de la chance, il y en a qui n'ont pas de femme, mais il a des enfants, il a des frères et sœurs, etc. Il a une équipe soignante qui est aux petits soins, parce que je peux vous dire, quand vous avez la maladie de Charcot, vous avez intérêt à avoir une grande humilité, parce que quand il faut vous changer, quand il faut, voilà, tout ce que vous faisiez avant et que vous ne pouvez plus faire, vous avez intérêt à être très humble. Et quand vous avez une équipe soignante qui est géniale, qui est aux petits soins, qui est à votre écoute et qui vous dit que vous avez du prix, vous avez du prix à ses yeux, mais en fait, vous n'avez pas du tout envie de mourir. Vous avez au contraire envie de vivre jusqu'au bout, accompagner des gens que vous aimez. Et en fait, c'est tellement facile de dire « Ah, je veux plus vivre parce que j'en ai marre, parce que je souffre, etc. » Mais bonté de bois, la société, elle, elle est là. Enfin, la fraternité, ça existe. C'est-à-dire que quand vous entourez les gens dans les soins palliatifs, les gens qui sont des bénévoles, etc., mais les gens, ils n'ont pas envie de mourir, en fait. Ils ont juste envie d'être accompagnés jusqu'au bout. Et en fait, mon frère, je pense que quand ce sera le moment, et je pense qu'il a, il a déjà vu ça avec sa femme, de ce qu'il voulait, qui veut pas de, qui veut pas qu'on, qu'on s'acharne sur lui, mais qui veut pas qu'on l'euthanasie, eh ben, en fait, non, mais en fait, les gens, ils veulent pas mourir, ils veulent juste pas souffrir. Donc, la société, elle doit être là pour les aider, pour les entourer. Et je connais personne qui a envie de mourir. On a envie de mourir quand on est seul, quand on a personne. Mais bonté de bois, mais ce gouvernement, il aura fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on aura eu l'avortement dans la Constitution et maintenant on aura la mort programmée. Mais c'est une honte, je vous le dis. Et là, je pars pour aller voir mon frère, mais s'il entendait ça, mais c'est ça en fait qui rend hyper triste. C'est qu'on veuille nous supprimer, qu'on veuille supprimer certaines personnes et qu'on ne nous raconte pas qu'il n'y a pas de problème économique. Ça, je ne le crois pas du tout, parce que vu l'état du pays, il y a forcément à un moment donné une histoire économique. Et effectivement, je pense que mon frère, il coûte cher, même si ma belle-sœur, même s'il paye tous les mois. Mais c'est une honte, en fait. Ça veut dire qu'on prend plus soin des gens. On prend plus soin des gens. Et ça, c'est affreux. Et je peux vous dire que c'est, en fait, c'est hyper dur. Et pour ma belle-sœur, c'est dur d'entendre parler d'euthanasie parce que, en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas l'euthanasie. On veut pas se débarrasser des gens. On veut justement être avec eux. Et mon frère est malade depuis 6 ans. Donc je pense que si la loi était passée, il serait peut-être déjà mort. Il, on aurait très bien pu lui proposer, bah oui, vous, vous en avez encore. Mais pas du tout. En fait, si ça se trouve, il va encore vivre 5 ans. On sait pas. Et il est heureux. Il sourit. Il sourit, bonté de bois. Donc arrêtons tout ça, enfin, c'est affreux. Et je vous le dis, Macron, il aura tout détruit. Il aura tout détruit dans, son, dans ses 8 ans. Tout
oui, ce que
détruit.
Vous dites, c'est que votre belle-sœur, elle porte à bout de bras une situation qui est évidemment très douloureuse pour leur couple et qu'elle le porte avec cette énergie immense de l'amour et qu'elle entend la société lui renvoyer en écho « mais tu t'occupes corps et âme d'une demi-vie, d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue ».
Mais oui, et je
c'est
peux
ça qui est d'une violence
vie,
psychique
et
incroyable.
Je peux vous dire que cette vie, elle vaut vraiment la peine. Moi, j'ai jamais vu mon frère autant me sourire. Je n'ai jamais vu ça. Sa femme est super, elle est là tous les jours. Enfin, et je peux vous dire que le sourire, mais j'avais jamais vu mon frère sourire comme ça. Et en fait, on a encore tellement de choses à se dire, tellement de choses de choses à parler, peut-être à se pardonner, peut-être à parce que voilà, on a vécu des choses ensemble. Mais c'est en fait vouloir abréger. En fait, ils veulent pas abréger la souffrance, ils veulent juste abréger la vie pour se débarrasser des gens. Et ça, je trouve ça.
Horrible. Ah, mais de toute façon, c'est pas pour les autres, hein, c'est pour leur confort à eux.
Et l'équipe soignante est vraiment mais extraordinaire. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de très 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 beau. Et en fait, c'est tellement précieux, cette vie, elle est tellement précieuse. Pourquoi vouloir l'abréger? Et en fait. Les gens veulent pas mourir, ils veulent pas souffrir, mais mon frère, il ne souffre pas. Donc, bien sûr que psychologiquement, il souffre. Mais quand vous voyez que, en fait, tout ce qu'on vous donne est beaucoup plus fort que votre solitude, votre enfermement, etc., mais en fait, vous n'avez pas envie de mourir, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, mourir sans souffrance, mais la médecine, elle sait faire ça. Je veux dire, la loi Claeys-Leonetti, oui. Elle n'est pas là pour... la sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle existe, mais elle n'est pas un meurtre, elle n'est pas tuée volontairement, elle est juste sur la fin, les quelques dernières heures, pour être sûr que la personne ne souffre pas, mais c'est pas ça qu'on va voter. Non, c'est affreux. Je vous dis, c'est épouvantable et vraiment, je suis triste. Je suis triste parce que, comme vous le disiez, ça ne s'arrêtera pas à la toute fin de vie. Et quand vous avez la maladie de Charcot depuis 6 ans, mais je me dis, mais quel courage, mais quel courage, quelle envie de vivre. C'est incroyable. C'est incroyable.
Et je pense
que aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a en France, qu'on parle d'euthanasie et de suicide. Et moi, quand je vois mon fils qui sauve des vies toute la journée, qui est pompier de Paris, mais qui vont ramasser des clochards qui sont tombés, etc. Mais en fait, le soin, il est là pour plus de vie.
Oui, alors
il
n'est pas là pour plus de morts. Vous savez ce que disaient déjà les philosophes grecs et les romains, hein, c'est que plus un empire touche à sa fin, plus ses lois sont folles. C'est-à-dire que c'est aussi, mettre l'accent là-dessus, c'est aussi un moyen d'escamoter le bilan désastreux de la France aujourd'hui, je crois. Mais ce qui est très important, c'est de souligner, enfin, le témoignage bouleversant d'Armel me fait penser à un élément dans le texte de loi, c'est que ce sera remboursé par la Sécurité sociale. Et alors là, je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique et pas seulement symbolique, de très important, c'est-à-dire que vous allez tous participer, je vais participer, à mon corps défendant, par mes cotisations, à financer des suicides. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas d'accord aura peut-être sur la conscience la mort d'un inconnu. Parce que le remboursement par la Sécurité sociale, non pas d'un soin, je vous signale qu'on ne rembourse pas certains traitements sous prétexte que ce ne sont pas des molécules. Hein, donc le remboursement de la Sécurité sociale, il n'est pas automatique pour tout. Le remboursement par la Sécurité sociale de l'aide médicale à mourir, il veut dire que chaque citoyen financera la mort d'autres citoyens, même si, en son âme et conscience, il n'est pas d'accord avec ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Frémont, et peut-être Armel, si elle est encore avec nous?
Je peux vous dire que, notamment les appareils pour les personnes souffrant de maladie de Charcot ne sont pas remboursés à 100%, alors que l'injection létale le sera. Et effectivement, merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Je trouve merci. Que ça en dit long sur le message collectif que la société renvoie. Aujourd'hui, la loi renvoie ce message de « quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on sera là pour vous », soit par les soignants, soit par l'intermédiaire des proches, qui sont admirables de dévouement. Mais cette proposition de loi Falorni vient dire exactement l'inverse, et votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et si vous êtes vulnérable, si vous êtes une personne handicapée ou âgée, finalement, pour le bien-être collectif, c'est mieux que vous disparaissiez. Et donc, on est vraiment là dans une loi de transgression. Et ce qu'on voit, c'est que partout ailleurs, ce nouveau droit, parce que ça serait un droit, devient finalement une injonction à mourir, notamment pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour toutes ces personnes qui sont éligibles à la mort, qu'on risque de pousser un peu trop vite vers la sortie. Et juste un petit mot sur ce que vous disiez, sur l'offre de soins en France. Quand on connaît l'état de la psychiatrie en France, quand on connaît l'état des soins palliatifs aujourd'hui, 500 personnes tous les jours meurent sans avoir eu accès aux soins palliatifs auxquels elles étaient éligibles. Quand on sait qu'il faut plus d'un an et demi d'attente pour avoir accès à un centre antidouleur, alors que cette loi prévoira d'obtenir la mort en 48 heures, on se rend bien compte qu'on est là sur une forme d'humanisme totalement renversée. C'est-à-dire que sous couvert de compassion, on organise l'élimination des plus faibles.
Armelle.
Ouais, si je peux dire un dernier mot.
Oui.
En fait, pour moi, enfin, la personne fragile est vraiment celle qui doit être considérée le plus, c'est-à-dire dire à ces personnes que malgré en fait leur fragilité, ce sont des personnes qui sont utiles. Et que dans cette société un peu individualiste, on pousse vraiment à l'exclusion des plus fragiles, alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est que si on dit aux personnes que, en fait, ils ont des fragilités, mais qu'en fait, ils ont du prix à nos yeux et que, en fait, ils ont encore quelque chose à dire dans ce monde. Et ben, en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas leur dire, ah, ben, parce que vous avez la maladie de Charcot, donc vous êtes, c'est bientôt fini pour vous, donc allez, on peut en finir.
C'est surtout qu'on nous bassine avec l'inclusion toute la journée et que.
Mais bien sûr, mais pas du tout. Mais moi, je vais vous dire, mais mon frère, il a des choses à dire et même s'il parle pas, il écrit encore un petit peu sur son téléphone, mais moi, il m'envoie des messages, il me dit, Armel, quand est-ce que tu viens? Enfin, mais on doit prendre soin de ces gens. On doit, au contraire, enfin, c'est notre priorité.
Non, mais surtout la définition de l'être, c'est justement que l'être ne se réduit pas au faire. On voit bien comme un grand-père qui ne travaille plus a deux choses à transmettre à ses petits-enfants par la parole et par la tendresse. Donc, il est évident que la valeur de la vie ne se réduit pas au faire. F-A-I-R-E. Merci Armel, et ben vous embrassez votre frère alors puisque vous allez le voir.
C'est très gentil, merci, au revoir.
Voilà, on pense très fort à vous, merci beaucoup pour votre courage et votre force, on l'entend à travers les ondes Armel. Merci à vous. 15h54, avant de dire au revoir à Laurent Frémont, une annonce Europe 1, la Libre Antenne, c'est 7 jours sur 7 sur Europe 1 de 22h30 à 1h du matin, les auditeurs retrouvent l'écoute bienveillante de Roland Pérez du lundi au jeudi et de Valérie Darmon du vendredi au dimanche. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, partager votre expérience, vos histoires d'amour, vos histoires d'amitié, vos peines de cœur, vos aventures sentimentales, laissez vos coordonnées en appelant Europe 1. Dès maintenant, 01 80 20 39 21, appel non surtaxé, 01 80 20 39 21, la Libre Antenne, 22h30, 1h du matin tous les jours sur Europe 1, la radio libre, 15h55. C'est une émission extrêmement importante qu'on vient de faire, Marie-Estelle Dupont. Hein.
La loi va passer à l'Assemblée dans moins d'une semaine, hein, donc on va revenir évidemment sur ce sujet dans Ici, on en parlait avec vous, Romain Desarbres.
Bien sûr, et on remercie Laurent Frémont d'être venu.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui dans le studio d'Europe 1, maître de conférence à Sciences Po et cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. Demain, Marie-Estelle Dupont va parler des agriculteurs.
Oui, tout à fait, l'ambivalence française.
Voilà. On les aime, nos agriculteurs, mais est-ce qu'on le leur dit assez et est-ce qu'on le leur dit bien? On va en parler demain entre 15h et 16h des agriculteurs. Dans un instant, Pascal Pro sur Europe 1.
Bonjour, c'est Christine Kelly. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1, en direct et sans langue de bois.
Christine Kelly et vous, du lundi au jeudi, de 11h30 à 13h sur Europe 1.
La radio libre.
Carrefour.
Vous me dites, les mandarines, il y a toujours quelqu'un pour te piquer un quartier. Eh bien, ça me donne envie de vous dire que les mandarines avec feuilles sont à 1,99€ le kilo. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Origine Espagne, variété Tangold et Nadorcote, catégorie 1, calibre 2-3, détail sur carrefour.fr.
Dans la vie, vous pouvez choisir le changement. Tester cette nouvelle coupe de cheveux un peu folle. Rejoindre vos amis au café juste après et attendre qu'ils complimentent. Attendre encore. Ou vous pouvez choisir une Volkswagen, parce que là, vous ne passerez pas inaperçu. Volkswagen, enfin une décision facile à prendre. En ce moment, le nouveau T-Roc est à partir de 229€ par mois.
Nouveau T-Roc 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 229€ si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier, conditions sur Volkswagen.fr.
Pensez à covoiturer.
Joyeux anniversaire!
On l'a déjà fêté hier.
Oui, mais chez Caseo, l'anniversaire dure 4 jours.
4 jours, 4 cadeaux. Fenêtres, cuisine, dressing et pergola.
Carrément. Pour les travaux et la réno, il y a Caseo.
Caseo, vos projets bien encadrés. Menuiserie, cuisine, véranda. Les 4 jours anniversaire Caseo, c'est jusqu'à moins 40% sur votre projet. Conditions et dates sur caseo.fr.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
Europe 1.
Coucou les amis, vous avez l'air en forme.
Incroyable, franchement, c'est magique.
C'est incroyable, en plus c'est une sacrée équipe. Hein.
C'est vraiment plus qu'agréable, on peut pas faire mieux là.
Merci à votre équipe et merci Europe 1.
Europe 1, la radio libre.
Préparez-vous à voir toujours plus de matchs, toujours plus de buts incroyables, toujours plus de clubs réunis pour un même frisson. Avec Canal+, préparez-vous à vivre toujours plus d'Europe. Retrouvez l'intégralité de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal+. Avec demain à 21h, Sporting Portugal, Paris SG sur Canal+ Foot et Real Madrid AS Monaco sur Canal+ Sport. Suivi mercredi à 21h d'Olympique de Marseille, Liverpool sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Votre fournisseur d'énergie, il a fait quoi pour vous en 2025? Chez Octopus Energy, on s'est inspiré des friteuses sans huile et des chargeurs sans fil pour inventer la maison sans facture. 5 ans garantie sans facture d'énergie grâce à des panneaux solaires, une batterie et une pompe à chaleur. Découvrez nos innovations et rejoignez le fournisseur qui en fait plus pour vous. Octopusenergy.fr. Offre soumise à conditions et éligibilité technique. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Bureau Vallée? Ah non, non, me mets pas de repos mardi, hein.
Ah bon?
On reçoit la nouvelle imprimante Epson à réservoir de chez Bureau Vallée. Je vais être la première à la tester, hein.
Oui, enfin, elle sera toujours là mercredi.
La première, j'ai dit.
L'imprimante multifonction jet d'encre Epson EcoTank. 29,50. 3 en 1, impression recto-verso auto est à seulement 289,99€.
Professionnel, démarrez l'année du bon pied avec Bureau Vallée.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Jusqu'au 24 janvier. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.